Hey, merci d'être avec nous. Tu sais à quel point il y a bien des parents qui nous écoutent en ce moment et qui sont complètement déboussolés. J'ai des amis, des gens de la famille qui se posent plein de questions. Est-ce qu'on envoie nos jeunes à la garderie? Est-ce qu'on invite les jeunes ados à la maison? Aide-nous.
La science est jeune au niveau du coronavirus. Hein. On a 2, 3, 4 mois de publication. Seulement, tout tend à démontrer que, premièrement, et ça, on en est à peu près certain, pour toutes sortes de raisons très complexes, les enfants sont très peu malades lorsqu'ils contractent le coronavirus. Ils le contractent très beaucoup moins que les adultes. Et là, je parle des 20, 30, 40 ans. Ils passeraient moins à d'autres. Et dans le monde, et ici aussi bientôt, là, parce qu'on commence à avoir des expériences avec les écoles et les garderies, on s'est aperçu que l'ouverture des garderies, des écoles, a très peu contribué à l'augmentation du nombre de cas dans les sociétés. Ça ne veut pas dire que les enfants ne peuvent pas contracter le virus, mais on est assez soufflés, même tous les pédiatres du monde, par le peu d'enfants vraiment malades, que ce soit hospitalisation ou même hospitalisation aux soins intensifs de ce virus-là. Donc, l'enfant, il contribue peu au portrait général. Ça ne veut pas dire qu'il ne contribue pas, mais la plupart du temps, quand il l'a attrapé d'un adulte. Ce n'est pas lui qui va le donner à un adulte. Donc, c'est une population qui est, par bonheur, bien protégée. Et c'est peut-être la seule bonne nouvelle de ce coronavirus-là, c'est que c'est un virus qui attaque peu les enfants. Donc, pour les enfants, on est content. Et puis, on est un petit peu, on est un petit peu inquiet de les voir être mis en parenthèse, non pas 2, 3 mois, là, ce qui vient de se passer, on le comprenait, il y avait une urgence. Mais à partir du moment où il y a un déconfinement des adultes, ce que tous les pédiatres prônent, c'est un déconfinement adapté à l'enfance, et puis adapté à la petite enfance, et puis surtout aux enfants de moins de 14 ans. Ça veut donc dire que on ouvre les garderies, les CPE, on permet à leur famille de refonctionner aussi, et puis on ouvre aussi les écoles primaires le plus possible, et puis surtout, on pense pas ne pas les ouvrir en septembre, mais ça vaut aussi pour le secondaire. Mais tu sais, il y a des occasions développementales chez les enfants à cause de leur croissance du cerveau qui ne repasseront pas. Donc, si on fait ça pour un an, nous, on est extrêmement inquiets pour leur devenir à moyen et à long terme. Et ça vaut pour les petits-enfants, comme les enfants d'âge scolaire, comme pour les adolescents. Il y a des expériences de vie qui se vivent à tel ou tel âge qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas, en tout cas, faire fi.
Donc, ce que tu veux dire, c'est que 2, 3 mois de confinement, c'est correct. Mais si on passe l'été et l'automne prochain en confinement, quel effet ça pourrait avoir sur nos enfants et nos adolescents?
À l'école? C'est encore l'âge de jouer au ballon, de pouvoir travailler avec les autres et de développer ses talents. Entre 6 et 10 ans, l'enfant, il développe ses talents. Alors, évidemment, certains ont été un petit peu largués au niveau académique. Tous les parents ne peuvent pas accompagner toujours leurs enfants du matin au soir. Et puis, les parents ne sont pas des éducateurs ou des professeurs, ce sont des parents. Donc, ils peuvent aider les enfants à apprendre, mais ils ne peuvent pas vraiment faire l'école à la maison sur des années. Et développer ses talents, développer de nouveaux neurones jusqu'à l'âge de 10-12 ans, le cerveau fait de la neurogénèse, c'est-à-dire qu'il construit des nouvelles compétences. Ça, c'est quelque chose qui doit se faire, mais avec des professeurs et qui doit se faire entre amis, en jouant au ballon ou en utilisant son corps aussi. Toutes les compétitions sportives, la manière de régler son estime de soi et son rapport avec les autres, il va s'installer jusqu'à 10, 11, 12 ans. Entre
Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas reprendre, donc, Jean-François.
C'est quelque chose qui va être diminué certainement si les enfants n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit. On va se retrouver dans une situation, je dirais, d'appauvrissement social, d'écosystème ordinaire qui fait que l'enfant ne va pas nécessairement se laisser porter par son environnement, par les autres. Ah, c'est sûr qu'il y a des enfants qui sont déjà bien, qui ont déjà plusieurs ressources, qui ont déjà une famille stimulante ou une grosse famille, à la limite, qui vont bien s'en sortir. Mais les enfants qui sont plus élevés seuls, une famille monoparentale, par exemple, qui sont déjà vulnérables, qui ont déjà pas une tendance à aller vers les autres ou qui auraient un surpoids ou qui seraient déjà anxieux ou colériques, ah, c'est sûr que ces enfants-là vont pas être capables, je dirais, de bien huiler leur développement avec le monde qu'on leur offre. Et très certainement, on s'attend, nous, à avoir plus d'anxiété, plus d'enfants un peu dérégulés dans leur colère, plus d'enfants isolés si ça continuait comme ça. Et ça ne peut pas continuer comme ça.
Jean-François, on sait que le regard entre le parent puis le nouveau-né, entre autres quand il est nourri, là, est important pour son développement et que c'est en observant un parent que l'enfant va capter son intention et c'est comme ça qu'il va le développer son cerveau. Est-ce que c'est la même chose pour l'entièreté du visage, pas seulement que le regard?
On le sait pour le regard, on le sait aussi pour le visage, le fait de sourire ou pas sourire. Il y a un médecin chronique, d'ailleurs, qui a beaucoup travaillé là-dessus en recherche à Boston, qui a expérimenté des visages, les gens peuvent le voir même sur le web, des visages d'enfants qui regardent leur éducatrice ou leur maman qui sourit puis qui fait plein de choses. Et puis là, on a demandé aux parents d'arrêter ou aux éducateurs ou aux expérimentateurs de sourire. Et les enfants se sont mis à se révolter, à pleurer. Tellement, la détresse était tellement grande que les expériences doivent arrêter. Donc, très clairement, l'enfant se construit sur le visage de l'autre. Moi, je suis contre le fait que, en général, que la figure puisse être voilée pour une éducatrice qui s'occupe d'un enfant. C'est la même chose avec les masques. Alors, où on va trouver des masques transparents? Où on demande aux éducatrices de pouvoir ne pas porter ce masque-là. Et là, je comprends très bien que tous les éducatrices en garderie ne peuvent pas arriver à ça à cause de leur santé, à cause qu'elles ont peur, on le comprend, mais il y en a beaucoup qui, actuellement, aimeraient être autorisées à ne pas porter de masque avec les enfants. Et ça, je pense que c'est important de leur donner leur libre choix et ce libre arbitre-là de pouvoir communiquer avec les enfants, avec tout leur visage, d'abord pour les sécuriser, parce que l'enfant va les voir, il va les reconnaître, et ensuite, pour pouvoir fonctionner au quotidien avec des enfants, changer de couche, les amener à un endroit, c'est sûr qu'une visière, un masque, c'est pas quelque chose qu'on peut porter à 32 degrés toute la journée sans jamais l'enlever. Donc, il est important de comprendre que le 2 mètres chez les enfants dans les CPE, ça ne peut pas tenir avec le développement humain. Ça peut tenir un petit bout de temps quand il y a une urgence. Maintenant qu'il y a un déconfinement dans le monde adulte, dans les centres d'achat, dans les centres d'esthétique, dans énormément de commerces ou dans les rues, je pense qu'il faut adapter ce déconfinement-là à ce qu'on connaît des enfants. Et c'est là que les pédiatres, l'association des pédiatres et tout, on trépignait depuis quelques semaines. On veut montrer que la pédiatrie est aussi quelque chose qui est connu. On est des bases scientifiques très importantes là-dedans. Et il est important de pouvoir les dire puis les mettre en place. Et surtout, de ne pas terroriser les enfants par des visages effrayants, effrayés, par de la peur, pour une maladie qui ne concerne que le monde des adultes. Les enfants sont des personnes. Ce sont de petites personnes, mais ils ont leurs droits autant que les commerçants.
Puis en terminant, Jean-François, dis-moi donc, qu'est-ce qu'on fait avec nos ados? Est-ce qu'on permet que différents ados viennent à la maison? Jusqu'où devrait-on aller?
Alors, les ados, c'est le discours, effectivement, Mitsou, le plus perturbant. Parce que nous, on a beaucoup insisté pour les petits-enfants. Ensuite, et je suis encore là-dedans avec mes collègues et puis les ministères et tout, on a beaucoup insisté pour les 5-14 ans parce qu'on ne voulait pas la fermeture des camps de jour. Et même si les camps de jour sont permis, ben les camps de jour, actuellement, ben ils sont mis en échec par les contraintes demandées par l'argent, par le nombre de moniteurs demandés par enfant, par les repas, les jours de pluie. Donc, alors là, il est évident que nous, par groupe de camps de jour, qui peuvent être considérés comme des familles, on voulait diminuer aussi tous ces éléments-là. Pas l'hygiène des mains, pas le lavage du ballon, qu'on peut laver un peu plus souvent, mais le 2 mètres pour les sports d'équipe et tout pour les camps de jour, c'est ça. Et pour les adolescents, ben, ça pose un autre problème. Donc, l'adolescence commence à 10 ans, puis qui se termine à 25 ans, puis pas toujours chez certaines personnes. On sait très bien que, bon, au départ, ils voyaient ça comme une expérience extrême. Le confinement, c'était wild, c'était le fun. Les adolescents aiment les expériences nouvelles. Mais depuis 2-3 semaines, ils commencent à souffrir. Ils sont déprimés. On a rencontré quelques psychiatres. On a l'impression que les éléments même de pensée suicidaire, de détresse affective vont augmenter. Donc, il est évident que là, il va falloir les déconfiner en quelque part. Est-ce qu'on les laisse jouer avec des petits amis et tout? Je pense que plus que jamais, une famille doit choisir avec qui son adolescent joue. Deuxièmement, il doit l'envoyer le plus possible dehors. Très clairement, toutes les activités extérieures sont beaucoup moins à risque pour le passage d'un virus que les activités intérieures. Donc, on peut quand même profiter de cet été qui est court là, pour les envoyer jouer dans le trafic, si je puis dire, ou dans la nature. Et évidemment, les adolescents, ils construisent par le groupe social, par les amis, par la distinction qu'ils ont avec leurs parents. Donc, se faire des amis, jaser au-delà du virtuel, avec des amis en vrai, éventuellement avoir un petit copain, une petite copine, on ne peut pas lutter contre encore le développement de l'adolescence, la sexualité, la testostérone qui vient exciter le système limbique, et aussi la prise de risque des adolescents. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'un adolescent qui prend des risques n'est pas nécessairement quelqu'un qui crache sur la santé publique ou sur ses parents ou sur l'ordre social. C'est quelqu'un qui se développe. La prise de risque, c'est important. L'enfant, devenu un adolescent, n'a pas un cerveau aussi bien inhibé qu'un adulte. Il a à peu près 80% du cerveau de l'adulte, mais il lui manque encore un 20% pour prendre les bonnes décisions dans chaque chose. Donc, il faut lui donner un petit peu de possibilité, selon moi, de prendre des risques pour ne pas qu'il prenne justement de gros risques, par exemple, se retrouver dans une gang, dans un parc à 4 heures du matin, avec de l'alcool ou la drogue qui est déjà légale. C'est quelque chose qui pourrait survenir de plus en plus si on n'autorise pas une certaine prise de risque. Et la prise de risque chez un adolescent, ben c'est le début de la libido. Ça va t'intéresser, Mitsou. C'est le début de cette pulsion de vie à toutes sortes de niveaux qu'il faut respecter. Parce que les adolescents, ils sont vivants et ils sont les bases de notre société et de la fondation de notre société. Et si pour 6 mois, 1 an, 2 ans, on met nos adolescents en parenthèse, c'est tout le Québec qu'on va mettre en parenthèse et pour très longtemps. Je pense que je viens de faire une finale.
C'est fantastique. Merci beaucoup. Donc, on permet même le frenchage, Jean-François.
Ben,
Cet été, on n'aura pas le choix.
Si vous ne le permettez pas, il va arriver de toute façon. Mais il ne faut pas frencher avec n'importe qui et moins que jamais.
Aïe, aïe, aïe. Hey, merci beaucoup.
Bon courage aux parents. Puis surtout, reprendre du plaisir au quotidien dans toutes les activités. C'est plus difficile d'anticiper comme les adolescents aiment le faire. C'est plus difficile de voir au-delà. Donc, il s'agit de conforter ses acquis et de développer ce qu'on a de mieux. Et avec les jeunes, il y a deux choses en terminant qui m'apparaissent importantes que je n'ai pas soulignées. C'est de veiller à ce qu'ils demeurent motivés à être vivants, à exercer leur talent et éventuellement retourner à l'école. La motivation des adolescents, c'est important. Puis les études commence à montrer qu'elle est en baisse actuellement. Et pour le faire, on a en pédiatrie de l'adolescence une belle approche qui s'appelle la réduction des méfaits. C'est-à-dire qu'on n'interdit pas, mais on contrôle en fait les extrêmes, les comportements trop à risque, trop débonnaires, trop délétères. Donc on autorise un peu tout en contrôlant plutôt que d'interdire tout ce qui est incompatible avec le développement des jeunes.